Bonjour à tout le monde. Dieu est un être réel. Pour certains d'entre nous, ça a été vraiment une découverte quand Dieu nous a appelés. Certains d'entre nous ne croyaient à Dieu aucunement. D'autres croyaient au Dieu qu'on leur avait montré. Mais une fois que Dieu nous appelle, il se révèle à nous comme le Dieu réel qu'il est, avec le plan qu'il a, avec la puissance qu'il a, avec l'amour qu'il a pour chacun de ceux qu'il appelle actuellement et pour tout le reste de l'humanité lorsqu'il les appellera après le retour du Christ. Petite question. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Probablement, ce serait facile pour vous de me répondre tout de suite par l'affirmative. Je vais poser une autre question. Est-ce que vous connaissez bien Dieu? Est-ce que vous le connaissez très bien? Alors, voyez-vous, ça ouvre déjà la porte pour que nous puissions aller plus loin. Le titre de mon message, « Connaître Dieu de plus en plus ». Et vous savez une chose, j'ai déjà mentionné ça, je pense à une fête des tabernacles, dans un message. Je pense que nous n'aurons jamais assez de l'éternité pour le découvrir et apprendre à le connaître complètement. Et ce sera une des joies de ce que nous allons vivre dans le monde de demain aussi en tant qu'être spirituel, en tant que ses enfants nés de son Saint-Esprit. Allez dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le Christ fait une déclaration d'importance majeure ici. Jean chapitre 17, le Christ montre ici, juste avant sa mort, l'importance du fait justement de connaître Dieu. Et c'est sur ce principe, cette donnée que je vais attirer votre attention aujourd'hui, que je veux qu'on réfléchisse au cours du sermon. Jean 17, versets 1 à 3. Regardez ce que le Christ a dit à son Père dans la dernière prière qu'il a adressée le soir où il a été arrêté avant d'être torturé et avant d'être tué. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Alors, voyez-vous le but de Dieu ici, pour tous les êtres humains, à commencer par ceux qu'il appelle maintenant, le petit troupeau. OK? Maintenant, il va plus loin. Regardez le verset 3, et c'est sur ce verset-là surtout que je veux attirer votre attention. « Or, la vie éternelle, regardez bien, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est fort comme déclaration et c'est puissant, là. Il y a un contenu énorme ici par rapport au but que Dieu a en appelant chaque être humain à tour de rôle. Le petit troupeau maintenant et le reste de l'humanité après le retour de Christ. Je répète, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Dieu. » Voyez-vous l'importance de ça? C'est une importance absolue. Parce que le fait de vraiment connaître le Dieu réel mène à quoi? À la vie éternelle. Comprenez-vous l'importance d'apprendre à connaître le vrai Dieu? Et il y a des façons d'apprendre à le connaître. Nous allons le voir aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait les premiers pas en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne. C'est Dieu qui a choisi de vous attirer au Christ pour que vous appreniez son plan, que vous appreniez ses lois, que vous en viviez et que vous vous prépariez à servir les êtres humains dans le monde à venir en leur enseignant les mêmes choses selon lesquelles vous et moi devons vivre maintenant dans un monde qui est hostile à Dieu et qui ne le comprend pas. Pour que nous suivions ses enseignements, son exemple, en vue de nous accorder, si nous sommes fidèles, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père, et celui que tu as envoyé. Quand un appelé le fait, quand il se soumet à ce que Dieu lui montre, Dieu intervient directement dans sa vie personnelle. Et on pourrait, à tour de rôle, évoquer plein de belles expériences qu'on a vécues par rapport à ça. Et c'est tellement encourageant. Parfois dans des grandes choses, mais parfois dans des toutes petites choses. où Dieu se manifeste à ceux qui veulent faire sa volonté. Pas à ceux qui sont parfaits, on n'est pas parfait, personne. Mais ceux qui sont en train de travailler à faire la volonté de Dieu. Celui qui le fait, Dieu se manifeste à lui, au cours de sa vie, dans ce qu'il vit. Et à ce moment-là, la personne découvre de plus en plus qui est le vrai Dieu et elle comprend de plus en plus les choses de nature spirituelle qu'on peut évaluer seulement avec l'Esprit de Dieu. C'est possible de connaître la divinité. Non seulement c'est possible, mais c'est absolument nécessaire. Je viens de vous dire que c'est ce qui mène à la vie éternelle. Si je ne connais pas le vrai Dieu, si je ne travaille pas à devenir comme lui, je n'ai pas d'espoir de vie éternelle. Tout est là. La divinité, pour le moment, on a eu des messages dernièrement là-dessus, et il y en a sur Internet. La divinité, pour le moment, se compose seulement de deux êtres. Elle se compose de Jésus, le Fils, qui a été le témoin fidèle. Il est venu porter un témoignage à la vérité. Il a révélé le plan de Dieu, il a révélé ses lois et il a révélé son Père. Le Père que Jésus est venu révéler, il est le deuxième être de la divinité. Ils sont les deux seuls pour l'instant. Maintenant, allez dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Et nous allons lire le verset 25. À partir du verset 25. Regardez comment Jésus-Christ s'exprime en parlant à son Père, en prière. Nous aussi, on doit prier Dieu en lui parlant dans nos mots. Et le Christ lui exprimait ses sentiments, ses émotions, ce par quoi il passait, ses demandes, et ainsi de suite. Et nous, on doit apprendre sur ce modèle-là. Et regardez ici, Matthieu 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Voyez-vous, les grands du monde, la vaste majorité de l'humanité, même les grands scientifiques, les grands cerveaux, les grands théologiens, les grands philosophes, ne comprennent pas les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge et c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut en juger et les comprendre. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir l'attitude de vouloir lui obéir. C'est là qu'il nous donne l'Esprit pour comprendre. C'est ce que le Christ est en train de dire ici. Et ça nous montre en même temps à quel point notre appel, il est précieux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et regardez, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux petits, à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont prêts à être enseignés, à ceux qui sont disposés à croire ce que dit la parole de Dieu et à la mettre graduellement en application. C'est ça. Et que tu les as révélées aux enfants. Verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » C'est selon son plan. Verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Alors, il signale ici qu'au point de départ, ces deux êtres spirituels éternels se connaissaient très bien de tout temps et se connaissent très bien. Mais là, il ajoute un petit bout de phrase après qui nous concerne directement. Alors, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Alors, comprenez-vous, il faut que ça nous soit révélé. Ça nous est donné de pouvoir comprendre ces choses-là. Et ça, c'est important de le saisir aussi parce que quand on comprend, c'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres ou plus intelligent, c'est parce que ça nous est donné. Et ça nous montre le précieux de ça. Gardez votre place dans Matthieu. On va revenir bientôt après être allé dans un autre verset dans les psaumes. Dieu prend soin personnellement de ceux qui s'appliquent à faire sa volonté et à observer ses lois. On commence comme des petits-enfants qui apprennent à marcher. C'est difficile au début et tout à coup, ça devient un peu plus facile. On se tient debout, on est moins exposé à tomber. Il y a une solidité qui s'ajoute et ainsi de suite. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Dieu sait d'où on part. Il est patient envers nous, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour faire la route. Et il s'implique, il prend soin de nous, comme des parents. On soigne d'un petit enfant qui apprend à marcher, puis même quand il marche comme il faut, mais qui est adolescent, il a encore besoin de ses parents pour avoir conseils, encouragement, soutien, et ainsi de suite. Et des parents normaux ont à cœur de donner au maximum ce qui est bien à leurs enfants pour les aider à s'établir et à développer la personnalité qu'il faut. Alors, Dieu prend soin personnellement de ceux qui s'appliquent à faire sa volonté. Comme ceux aujourd'hui, qui observent consciemment le sabbat, qui ont voyagé dans certains cas pour aller à la Sainte Convocation, parce que la Bible nous dit « n'abandonnez pas la Sainte Convocation », parce que ça fait partie du sabbat, à moins qu'on soit malade ou empêché autrement. Mais sinon, on vient ensemble pour être nourri, comme ça a été mentionné dans la prière, et aussi pour fraterniser, parce qu'il y a une chimie spirituelle qui se passe entre les enfants de la famille de Dieu, quand on se voit au moins une fois par semaine lors du sabbat. Psaume 37. Allez dans Psaume chapitre 37. Verset 27. Voici notre responsabilité une fois qu'on connaît les lois de Dieu, qu'on connaît le bien. Verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien. Ça, c'est les changements qu'on doit apporter dans notre vie et continuer de les apporter. Détourne-toi du mal et fais le bien. Et possède à jamais ta demeure. Ici, il y a une fenêtre ouverte sur la vie éternelle. Parce que si je m'applique à faire le bien, je connais mon Dieu qui me donne son esprit et qui m'amène vers la vie éternelle. Car, verset 28, c'est sur ce verset que je veux attirer votre attention, car l'Éternel aime la justice, sa justice, la justice de Dieu. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Ça, c'est un grand encouragement que Dieu donne dans sa parole à ceux qui ont le courage de suivre l'appel de Dieu et de travailler à changer les choses qui ont à changer. Et c'est parfois extrêmement difficile. On a vécu des choses très difficiles, mon épouse et moi, dans le passé. Mais Dieu nous a toujours aidés à traverser ces choses-là quand il nous a appelés et qu'il y avait de l'opposition ou qu'on a dû abandonner des choses, qu'on a dû perdre des choses en cours de route. Il fallait avoir le courage de le faire. Il fallait avoir le courage d'être différent. Mais Dieu nous a bénis. Et il nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 40 ans. Et on continue. Et plus ça va, plus on est enthousiasmé par ce qui vient, parce qu'on en est imbu davantage. On connaît notre Dieu de plus en plus. Et regardez Matthieu 10. Vous avez gardé votre place. Probablement allez dans Matthieu 10, maintenant tout près de où nous étions. Regardez comment Dieu agit envers ceux qui l'appellent, envers ses enfants. Matthieu 10, le verset 29 à 31. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Donc, il parle de tout petits oiseaux ici qui valent peu de choses. Il dit, deux petits oiseaux comme ça ne valent pas grand-chose. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Dieu est conscient de ce qui se passe dans sa création. Et même vos cheveux sont tous comptés. Même vos cheveux sont tous comptés. Quand on parle du soin que Dieu prend de ses enfants, là, il regarde vraiment à travers nous, tout ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on a besoin, ce qui nous fait peur, ce qu'on attend. Dieu le voit et il travaille avec nous. Quand il commence un travail avec nous, lui, il nous appelle pour finir le travail. C'est bien marqué dans Éphésiens qu'il va terminer, si on est fidèle, le travail qui a commencé en nous le jour de notre appel. Plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous comprenez son attitude, ses attitudes, et plus vous comprenez ses réactions, plus vous comprenez ses actions en toutes circonstances. Et là, vous apprenez à connaître non seulement Dieu, mais en lui, le bon Père qu'il est. Parce que c'est un bon Papa qui se soucie de nous. Parfois, il va nous laisser passer des épreuves, même parfois pendant longtemps, pour que nous apprenions des choses, mais c'est toujours pour notre bien. Et il va nous donner la force de passer à travers. Et plus vous apprenez à compter sur lui dans ce cas-là et plus vous apprenez à lui faire confiance. Parce que quand vous voyez les réponses qu'il vous donne, quand vous voyez comment il vous soutient à travers différentes épreuves et que d'autres épreuves viennent au cours de votre vie, vous vous rappelez ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Et c'est pour ça qu'à plusieurs endroits dans la Bible, il dit « Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Souvenez-vous des temps anciens. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. » Et en faisant ça, vous et moi, on développe avec notre Père une relation personnelle solide entre moi et mon Père céleste, mon Père parfait. Certains d'entre nous, on a eu la bénédiction d'avoir des pères formidables, pas parfaits, des pères humains qui avaient des défauts, bien sûr, mais qui avaient à cœur de nous aider, de nous corriger, de nous apprendre des choses, de nous aimer, de nous soutenir. D'autres ont eu des pères moins bons, on va dire. Et d'autres ont eu des pères carrément mauvais, indignes dans certains cas. Et ils en ont souffert énormément. Et pour eux, c'est un pas difficile de faire confiance à Dieu parce que l'expérience qu'ils ont d'un père humain a été tellement négative que ça entache un peu leur démarche. Et ils sont obligés, dans ce cas-là, parfois, de supplier Dieu de les aider, d'être capable de mettre ça en dehors de leur tête pour que ça n'entache pas la relation avec lui. Parce que Dieu est un bon papa. Et on découvre en lui, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un bon papa qui prend soin de nous vraiment. L'Écriture nous montre que les grands hommes et les grandes femmes de la Bible ont appris à connaître Dieu. C'est une chose qu'on doit apprendre. Ça ne vient pas tout d'un coup. Ça se fait sur une période progressive. Ils ont appris à connaître Dieu, et même très bien, tant et si bien qu'on voit des exemples frappants de ça. On voit, par exemple, un vieillard comme Abraham, auquel Dieu dit, « Pars de l'endroit où tu es. Je ne te dis pas où tu vas aller exactement, mais pars, je vais te montrer en cours de route où tu dois aller. » Et Abraham a obéi, a cru en Dieu. Non seulement il a cru en Dieu, mais il a cru Dieu, ce que Dieu lui demandait de faire. Et on voit les bénédictions qui sont arrivées par la suite. Quand Dieu lui a demandé plus tard d'offrir son fils, il a été capable de dire, « Je vais le faire parce que Dieu me le demande. » Et connaissant Dieu, il le connaissait. Si je dois perdre mon fils momentanément, il va le ramener par une résurrection. On voit ça dans la Bible. Parce qu'il avait promis à Abraham que c'était par ce fils-là qu'il aurait une descendance. Voyez-vous, plus on connaît Dieu, plus on est capable de se fier à lui, de s'en remettre à lui dans toutes sortes de circonstances, et plus on est capable de faire référence à ce qu'il a fait pour nous dans le passé, et ça nous encourage. Allez dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On a un autre cas ici de quelqu'un qui a appris à connaître Dieu et qui a développé d'avoir confiance dans l'Éternel. C'est Moïse. Vous savez, Moïse a été sauvé des eaux. Il devait être mis à mort comme tous les enfants de son âge. Pharaon voulait les éliminer. Il avait été épargné. Et Moïse a été élevé à la cour de Pharaon, pas à n'importe quelle place, là. À la cour de Pharaon. Il était apparemment un des généraux importants de l'armée de Pharaon, quand on regarde l'histoire. Et à un moment donné, il a tout abandonné ça pour vivre autrement, parce qu'il s'est joint au peuple hébreu. Dieu l'appelait, et plus tard, il a dirigé le peuple hébreu. Mais remarquez la décision puis le choix que cet homme-là a fait. Des grands pouvoirs, de grandes richesses, un poste, un statut, et il a tout abandonné, non pas pour avoir quelque chose d'aussi beau maintenant, mais pour souffrir avec le peuple de Dieu. Tout un choix, mais il voyait plus loin que la réalité immédiate. Regardez Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est vrai, le péché est agréable pour un temps. Et on peut continuer là-dedans, mais c'est pour un temps. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Et il y a les conséquences qui viennent avec. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur ce qui vient après, sur ce qui nous attend dans le monde de demain, ce qui nous attend dans le monde de la vie éternelle pour les enfants fidèles de Dieu. Et Moïse sera là avec Abraham, avec M. Armstrong, avec ceux qui seront ramenés à la vie au moment du retour de Christ. Allez dans 1 Chronique maintenant, chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28. Voyons ce que le roi David a dit à son fils Salomon qui allait lui succéder sur le trône et qui avait, lui, la responsabilité de bâtir le temple de Dieu. OK? Dieu n'a pas permis à David de bâtir le temple. David a amassé des matériaux en grande quantité. Mais c'est Salomon, son fils, qui avait la responsabilité de construire le temple. Mais regardez ce que David a conseillé, ou a ordonné, si vous voulez, à son fils Salomon. David réalisait l'importance de connaître Dieu. 1 Chronique 28 et le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Voyez-vous, on revient encore à ce thème-là. David dit à Salomon, « Connais le Dieu de ton père. » et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Ici, vous avez la définition, dans le fond, de ce que c'est que connaître Dieu. Il dit « Connais le Dieu de ton Père, égal, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Donc, ça veut dire « Soumets-toi à sa volonté, obéis à ses lois. » C'est ça, connaître Dieu. Et plus on le fait, plus on connaît Dieu, parce qu'il nous donne de comprendre les choses. Alors, il dit « Sers Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Ce que je vous disais tantôt, Dieu voit dans le cœur de ceux qu'il appelle et il travaille avec nous de façon extraordinaire. Maintenant, ici, il y a une nuance à apporter parce que quand vous regardez dans la version King James en anglais et dans le texte original, « pénètre tous les desseins et toutes les pensées de votre cœur », c'est « et il comprend toutes les intentions de nos pensées ». Il va plus loin. Il ne sait pas seulement nos pensées, mais il sait les intentions que nous avons derrière nos pensées. Et même parfois, en tant qu'être humain, des fois, on a de la difficulté à définir quelle motivation on a, quel motif on a derrière ce qu'on fait. Mais Dieu dit, non seulement je vois vos pensées, mais je vois les motifs qu'il y a en arrière de vos pensées. Alors, David réalisait l'importance de connaître Dieu et de développer une relation solide avec lui. Premièrement, par l'obéissance. Allez à 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, première lettre de l'apôtre Jean, chapitre 2, et on va lire simplement le verset 3 et 4 qui sont très clairs. Quand David dit à Salomon, connais l'Éternel, obéis-lui, fais sa volonté, en fait, l'apôtre Jean dit à peu près la même chose ici dans ces termes. Verset 3, 1 Jean 2, verset 3, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est simple, hein? Mais quand on met ensemble les différents morceaux du casse-tête comme ça, l'image apparaît encore plus clairement. Il dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est ça connaître Dieu, vivre selon ses lois. Et plus on le fait, plus Dieu se fait connaître à nous. Il y a un roulement qui s'établit entre lui et nous, et la relation personnelle devient de plus en plus forte et nous soutient de plus en plus. Dans les temps présent et dans les temps plus difficiles qui s'en viennent. Parce que si on accumule la force maintenant en développant cette relation, on aura ce qu'il faut pour passer à travers ce qui vient. Regardez le verset 4, très fort. « Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » C'est simple, simple. C'est noir ou c'est blanc. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est clair, clair, clair. Clair comme de l'eau de roche. Alors, comment on connaît Dieu? Par l'obéissance. Comment on connaît Dieu aussi? En lui parlant. Par la conversation avec lui. Chaque jour, dans nos prières. Et pourquoi je dis une conversation avec lui? Parce que lui aussi nous parle. Comment? Comment est-ce qu'on appelle la Bible la parole de Dieu? Alors, chaque matin, avant de commencer la journée, je fais ma prière à Dieu. C'est là la plus longue période que j'utilise le plus tôt possible pour parler à Dieu et mettre ma journée entre ses mains et tout ça. Et après ça, au cours de la journée, je fais mon étude de Bible. Là, c'est Dieu qui me parle. C'est la parole de Dieu. Et là, j'apprends des choses. Et je peux lui demander, dans ma prière, de me montrer les choses que j'ai à apprendre et ainsi de suite. Alors, comprenez-vous pourquoi je dis que c'est une conversation? La prière est une conversation dans le sens que si elle est jointe à l'étude biblique, c'est exactement ça. Et Dieu me parle par ça. Et Dieu nous parle aussi, on pourra vous donner des exemples à un moment donné là-dessus, Dieu nous parle aussi par les événements qui arrivent dans notre vie. Des fois, il nous donne des indications par des choses qui arrivent autour de nous ou qui nous arrivent. Si on est proche de lui, si nos antennes sont ouvertes, si on est sur le radar de Dieu, pour ainsi dire, on peut capter les choses que Dieu nous envoie comme message. Il faut que ce soit clair, bien sûr, là, pas que ce soit des choses inventées de notre part ou quoi que ce soit, mais Dieu nous parle, ou parfois par des gens même autour de nous. Ça m'est déjà arrivé de comprendre une situation ou d'apprendre une certaine vérité par quelqu'un qui a passé une remarque dans l'église ou tout ça, et ça a connecté avec quelque chose que moi j'avais une question sur le sujet. Dieu travaille de cette façon-là. Il faut être proche de lui, il faut que notre radar soit ouvert, que les antennes soient en fonction pour qu'on puisse être capable de comprendre ce que Dieu nous dit. Et après ça, bien sûr, c'est la réflexion. C'est ce que la Bible appelle la méditation. Méditer, c'est pas aller s'asseoir sur une roche et puis les jambes en lotus et puis les bras en l'air en faisant le vide. Non, c'est en faisant le plein. En faisant le plein. Parce que quand on fait le vide, il y a quelqu'un qui aime venir nous mettre des idées dans l'esprit. C'est le contraire de la vérité biblique. Alors, Dieu veut qu'on soit rempli de son esprit, qu'on soit rempli de sa pensée, de sa parole. Et là, on y réfléchit pour savoir comment l'appliquer et comment comprendre l'histoire qui est arrivée, comment Dieu est intervenu, comment Dieu est fidèle, et ainsi de suite. Et ça, ça nous nourrit, ça nous aide. On réfléchit à ces choses-là. On fait pas le vide, on fait le plein. L'apôtre Paul aussi a réalisé la nécessité de connaître Dieu. Allez dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va commencer à lire au verset 8. C'est Paul qui parle. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Voyez-vous, Paul était un pharisien. Paul était un homme bien connu. C'était un érudit de l'époque. C'est pour ça que ses textes sont parfois difficiles à comprendre et tout ça. Mais Paul a changé complètement. Il a abandonné son poste. Il a été décrié, il a été rejeté par les siens, il a été rejeté par, bien sûr, les membres de son Église, qui n'étaient pas l'Église de Dieu à ce moment-là, qui était la secte des pharisiens et tout. Alors, il s'est retrouvé dans une mauvaise position, même plus que ça, parce que même les membres de l'Église de Dieu avaient peur de l'accepter parce qu'il avait persécuté l'Église. Alors, voyez-vous, ce à quoi il a dû faire face quand Dieu l'a appelé. Mais il dit, « Moi qui étais un homme important avant, je ne suis pas important. » Et tout ce que je pensais important, je l'ai abandonné. Regardez ce qu'il dit. « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour moi, mon grand frère, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Avant ça, c'était sa justice de pharisien. Que le Christ a décrié en disant, vous êtes une bande d'hypocrites. Vous dites, mais vous ne faites pas. Paul était parmi ces gens-là avant. Il dit, j'étais avec ma justice, mais maintenant j'ai changé. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. On revient au but pour lequel Paul avait découvert qu'il existait, et le but que Dieu nous révèle à ceux qu'il appelle maintenant. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, par le baptême, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Encore le but, connaître Dieu, c'est de parvenir à la vie éternelle. Fantastique. Allez dans Exode 33 maintenant. Exode 33. Ici, on va voir le cas de Moïse. Comme David, comme l'apôtre Paul, au cours des années, Moïse a réalisé l'importance d'être proche de Dieu. Et c'est intéressant de le voir interagir avec Dieu, comment il lui parle à Dieu dans sa prière. Au moment où Moïse était en charge de toute la nation d'Israël, à un moment spécifique, stratégique, voyez ce qu'il demande à Dieu au verset 13 d'Exode 33. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Voyez-vous, on doit connaître des choses. Et il demande à Dieu de lui faire connaître ses voies. « Alors je te connaîtrai. » Et sous-entendu, je mettrai en pratique tes lois. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il y a un lien direct entre le fait de connaître Dieu et le fait de vivre selon ses lois, de travailler à faire sa volonté. Moïse connaissait déjà Dieu. Il était rendu à un âge avancé à ce moment-là, quand il était en charge de la nation d'Israël. Il connaissait déjà Dieu. Mais, et c'est la même chose que nous, même si on connaît Dieu, il faut vouloir aller plus loin, comme lui voulait aller plus loin, là. Et il est allé plus loin, effectivement, dans ces circonstances-là. Il voulait le connaître davantage et il voulait que Dieu soit associé à tout ce qu'il avait à faire. Autrement dit, sa vie devenait liée à la volonté de Dieu dans tous ses aspects. C'est ce qu'il est en train de mentionner ici. C'est rassurant pour nous. Puis c'est encourageant de connaître Dieu, de connaître ses caractéristiques, de savoir qu'on peut se fier sur lui. D'ailleurs, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment point. C'est marqué clairement, mais c'est prouvé. Et Dieu ne change pas non plus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On peut se fier. Dieu accomplit parfaitement toutes ses promesses. Et dans ce sens-là, Dieu est totalement prévisible. Et je fais une petite parenthèse. C'est comme ça que Dieu veut que nous devenions prévisibles, que nous développions son caractère pour qu'il sache que dans 1,5 million d'années, s'il nous confie telle responsabilité, parce que nous serons des êtres spirituels, que nous allons être prévisibles, que nous n'allons pas nous détourner pour essayer de prendre sa place ou de créer des problèmes ou tout ça. Nous serons prévisibles parce que nous aurons développé son caractère vers la perfection et que lui nous rendra parfaits en temps et lieu. Voyons maintenant rapidement trois autres caractéristiques de Dieu. Ça va nous aider à le connaître davantage, puis à l'apprécier davantage. Trois mots qui commencent par un mot latin, « omni », qui veut dire « totalement » ou « complètement ». Dieu est omnipotent. Le mot « potentiel »,« potentialité », c'est d'être capable de. Omnipotent, c'est qu'il peut tout. Dieu peut tout. Vous irez voir dans Luc 1, verset 37, c'est marqué « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu. Mais ici, je fais une petite parenthèse. Parce que parfois, des gens nous disent « Ah oui, mais Dieu peut pécher ». Non, Dieu ne peut pas pécher. Parce que c'est contraire à ce qu'il est. Dieu est amour. Et l'amour, c'est le reflet de ses lois. C'est ce qu'il est. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de lui-même. Ce n'est pas une impossibilité, là. C'est un jeu de mots que de dire « Ah, Dieu pourrait pécher ». Non, non. Dieu n'est pas tenté par le péché et Dieu ne pêche pas. Sauf que dans sa création, dans tout ce qu'il a fait, rien ne lui est impossible. Job, c'est un homme juste, vous le savez. C'est un homme juste, connaissait Dieu, mais pas suffisamment. Dieu a permis dans son cas qu'il passe par des épreuves assez grandes. C'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais dans son cas, ça a été assez spécial. On n'a pas toutes les informations, mais un jour, on saura tout ce que ça impliquait. Mais Job avait besoin d'apprendre d'autres choses aussi. Il est passé par de grandes souffrances, par de grandes épreuves, et il a appris finalement une leçon importante. Vous irez voir dans Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. C'est intéressant parce que à partir du chapitre 38 dans Job, on voit que Job a posé des questions à Dieu sur sa situation et tout ça. Et là, Dieu lui répond à partir du début du chapitre 38. Vous pourrez lire ça, c'est formidable, parce que Dieu ne répond pas à ces questions. Mais Dieu répond à la question qu'il doit répondre, qui n'avait pas été posée. Il dit, Job, où est-ce que tu étais quand j'ai créé la terre? Tu étais où, toi, là, quand j'ai étiré le cordeau, puis que j'ai mis ça là, puis j'ai suspendu la terre dans le vide, et elle se tient, elle est toujours à la même distance du soleil, que j'ai établi les galaxies et tout ça, où est-ce que tu étais? Et après ça, il décrit les animaux de la création, et la force et les qualités de chacun des animaux. Et puis, il lui montre plein de choses comme ça. Puis à un moment donné, là, Job réalise que Dieu est vraiment le Dieu suprême et qu'il fait ce qu'il veut et que ce qu'il fait, c'est pour le bien de ceux qui l'appellent. Et c'est pour ça que dans Job 42, verset 2, Job tire la conclusion, il dit, « Je connais, Dieu, que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, ni à ton plan. » Là, ce qui est arrivé, c'est que Job est arrivé à un autre niveau de compréhension, à un autre niveau de connaissance de Dieu. Et dans nos vies, la même chose se produit. Quand on est fidèle à Dieu, on a des obstacles, puis parfois des gros. Heureusement, pas comme Job tout le temps, là, mais on a des obstacles. Et avec l'aide de Dieu, on peut passer à travers, on le supplie. Parfois, il aplanit le sentier. Parfois, il laisse l'obstacle, mais il nous donne le courage. Parfois, il nous donne la patience de passer à travers. Mais dans tout ça, il accomplit ce qu'il veut accomplir pour développer notre caractère et nous préparer aux fonctions que nous allons avoir par rapport aux êtres humains dans quelques brèves années lorsque Christ sera revenu. Il dit, « Je reconnais, Dieu, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ça correspond à quelque chose de vraiment encourageant dans le Nouveau Testament. Allez dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. M. Appartien se référait à ce passage-là régulièrement et c'était toujours un grand encouragement. À travers tous les événements que les appelés fidèles ont à vivre, Dieu est là, il se manifeste, il intervient pour que nous réussissions à passer à travers. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre ses lois en pratique, on l'a vu tantôt. Alors, toute chose, les choses faciles, les choses agréables, les choses difficiles, les choses désagréables, les choses qui sont en suspens, qui nous dérangent, qui nous fatiguent, qui nous inquiètent, parce qu'on est des êtres humains. Il dit toutes ces choses-là, pour ceux qui ont à cœur de continuer à vivre selon ses lois, il dit toutes ces choses-là concourent au bien, amènent là où ça doit amener. Et Dieu prend soin de ses enfants, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelles que soient nos circonstances, et elles sont variées, les gens qui sont ici, toutes des circonstances différentes, et parfois des circonstances très difficiles. Certains sont sortis de circonstances récentes difficiles, d'autres sont encore dedans. Mais Dieu travaille à travers tout ça pour façonner son petit peuple. Quelles que soient nos circonstances, Dieu peut tout, et il fait en sorte que tout ce qui nous arrive puisse concourir véritablement à notre bien. Deuxième caractéristique avec un omni. Omniprésent. Dieu est omniprésent. Je précise, on avait appris dans le petit catéchisme autrefois, et dans les religions du monde, je pense que c'était ça, que Dieu était présent partout. Là. Il est présent partout, mais il n'est pas présent littéralement. Parce que la Bible dit clairement que Dieu est dans la salle de son trône au ciel. Le Père n'est jamais venu sur la terre. Il va venir seulement à la fin de l'histoire telle que c'est mentionné. Alors, le Père, il est au ciel sur son trône et le Christ est à côté de lui, à sa droite, en attendant le signal pour venir prendre charge de la terre. Voyez-vous? Alors, je ne peux pas dire physiquement, mais littéralement, ils ne sont pas sur la terre. Mais ils sont ici par leur esprit, par leur puissance, la puissance du Saint-Esprit. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. C'est important qu'on comprenne ce principe-là pour qu'on ait une image plus juste de qui est Dieu, comment il travaille. On peut commencer au verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Oui, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, qui est venu témoigner, qui a donné le message. Par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Le Père a établi et Jésus héritier de toutes choses. Et nous, par la même occasion, on voit ailleurs que nous sommes co-héritiers de Christ. Si nous sommes fidèles, nous allons hériter toutes choses avec lui. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est pas le Père qui a créé l'univers, c'est Jésus qui a eu le mandat de le faire. Mais regardez verset 3. C'est sur ça que je veux attirer votre attention. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est lui qui a dit à un moment donné que la lumière soit au début de la création. Et la lumière a été. C'est lui qui a parlé et les choses sont venues en existence. Exactement, il est le porte-parole. Il est la parole de Dieu. Alors, c'est par son Saint-Esprit qu'il soutient toute chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle aussi de son omniprésence, du fait qu'il est présent dans toute sa création, mais par sa puissance. D'ailleurs, s'il retirait sa puissance, on cesserait d'exister instantanément. C'est lui qui soutient toute chose. On le voit dans d'autres passages. Colossiens 1, verset 17, vous pouvez aller voir. Toute chose subsiste en lui. S'il cessait de soutenir sa création, elle disparaîtrait instantanément. Tout simplement. Mais allons voir dans Jérémie. Jérémie, chapitre 23, dans l'Ancien Testament. Fascinant quand on met ensemble les versets qui nous expliquent ces choses superbes concernant le Dieu que nous avons le bonheur et le privilège de servir. Jérémie 23, et regardez le verset 23 et 24 ici. Dieu parle de son omniprésence, de sa présence partout par son esprit. « Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? » Donc, il est partout, que ce soit proche ou loin, il soutient toutes choses par son esprit et il est là. Il est capable de tout percevoir. Il est capable d'agir dans toutes les parties de sa création. Allez, regardez plus loin. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Autrement dit, y a-t-il quelqu'un qui peut se cacher puis faire des méchants coups sans que je le sache, sans que Dieu le sache? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Donc, je suis partout par mon esprit et je suis conscient de tout ce qui se passe sur la planète. Et plus particulièrement dans le cœur de ceux que j'appelle, parce que c'est avec eux que je travaille de façon spéciale maintenant. Mais je sais ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Allez dans Psaume 139, où on voit la même chose. Psaume 139, qui est très éloquent à ce sujet-là aussi. Psaume 139. On va commencer au verset 7. On peut... Commençons au verset 1 de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Vous pouvez dire la même chose. Vous êtes appelé de Dieu. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu sait ce qu'on pense, pourquoi on pense, quels sont nos motifs derrière nos pensées, comme j'ai mentionné tantôt. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu sais ce que je vais te dire. Là où je suis rendu avec mon état d'âme et ainsi de suite. Dieu est puissant. Et Dieu porte attention à tout ça. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On n'a jamais fini de saisir cette majesté de Dieu, sa puissance infinie. Mais plus on la découvre, plus ça nous motive à nous approcher de lui puis à faire sa volonté. Puis là, quand on fait ça, comme j'ai mentionné, on le voit intervenir et ça devient un double encouragement qui nous aide à continuer. On ne peut rien lui cacher. Regardez après, verset 7, ce que David dit. « Où irai-je loin de ton esprit? » Parce que son Saint-Esprit, il est partout, là. C'est ça que j'ai mentionné tantôt. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Et il continue dans ce sens-là. Dieu est partout présent par son esprit. Et comme dans le cas de David, Dieu entoure, pour ainsi dire, ceux qui l'appellent et il les suit dans leur cheminement pour les aider, les encourager, les corriger au besoin, les consoler, les guider. C'est un Père aimant, c'est le Père parfait. On ne peut rien lui cacher. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est comme les enfants, parfois, ils font quelque chose de pas correct, mais ils se vendent eux-mêmes. Je me rappelle une fois, je pense que c'est notre fille c'est Annie qui avait cassé une fenêtre, je pense, puis elle était venue, puis elle avait dit, « C'est pas moi qui ai cassé la fenêtre. » Alors, voyez-vous, avec la simplicité d'enfant, elle ne pouvait rien nous cacher. Mais pour Dieu, c'est ça, et c'est encore plus. C'est encore plus que ça, parce qu'il voit même nos motifs, nos intentions et toutes ces choses-là. On ne peut rien lui cacher. On ne peut pas non plus se cacher de lui. Et penser qu'il ne voit pas certaines de nos faiblesses. C'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir l'humilité de reconnaître nos faiblesses telles qu'elles à Dieu. Pas jouer de jeu du tout avec Dieu. Dire les choses telles qu'elles. Avec telle situation, je ne suis pas capable. J'ai de la difficulté, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Et je n'ai pas de porte de sortie. Si on reconnaît nos faiblesses, nos besoins, Dieu répond. Parce qu'il dit clairement, Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. À ceux qui disent, non, je ne veux pas pécher, moi. C'est pas moi qui ai cassé la fenêtre. Dieu n'agit pas de cette façon-là. Et on ne veut pas non plus rien lui cacher. Au contraire, on peut lui demander de nous aider à être transparent envers lui et qu'il voit à travers nous. Où que vous soyez, vous pouvez parler à Dieu qui entend et qui se souvient. J'ai envie de mentionner un exemple. Est-ce que je peux faire? OK. Parce que ça touche une femme ici dans l'Église pour laquelle Dieu est intervenu il y a 2 semaines. J'ai vraiment aimé qu'elle nous raconte son aventure parce qu'à un moment donné, Elle est sortie de la maison, elle est allée travailler sur le terrain et elle était seule. C'est un grand terrain, les voisins sont quand même à une certaine distance. Et elle avait un chariot qui avait été rempli de ciment. C'était très, très lourd. Elle a pu le bouger un peu parce qu'il y a des roues en dessous. Elle a pu le bouger un peu, mais en reculant pour un mauvais mouvement ou à cause du poids, ça l'a poussé à terre et tout ce chariot de ciment est tombé sur elle. Elle était vraiment mal prise, en grande douleur, et elle s'est mise à crier pour avoir de l'aide, c'est normal. Elle a crié, crié, crié. Personne, personne. Et son mari était à l'intérieur, n'entendait pas non plus, les voisins n'entendaient pas non plus. Et elle a crié à Dieu. Elle a supplié Dieu d'intervenir pour elle parce qu'elle sentait qu'il y avait des choses graves qui se passaient. Et chose curieuse et chose bénie, parce qu'à un moment donné, il y a un immense camion qui est passé dans la rue. Mais il est passé tout droit et il est revenu ensuite. Et après, on a su qu'est-ce qui s'était passé aussi. Le monsieur est descendu de son camion et il est allé vers elle. Il a vu qu'il y avait un problème. Mais la première fois, il osait d'abord... Il n'y avait pas de raison d'avoir entendu, comme il a dit lui-même après, parce qu'avec cet immense camion, moteur diesel, et avec, il dit, mon radio était au maximum. Je ne pouvais pas entendre. Et il a quand même entendu. Il est revenu, il a descendu, et là, au début, il ne voulait pas y aller. Il pensait que c'était une chicane de famille ou quelque chose du genre, parce qu'il entendait des cris. Mais en s'avançant, il a vu qu'il y avait cet immense bac qui était sur notre petite sœur ici, et qu'elle était vraiment mal prise. Alors ici, il a appelé la police, il s'est précipité aussi pour aller l'aider. Et ils l'ont sorti de cette fâcheuse position. Même les policiers ont dit que c'était une situation où elle pouvait avoir des séquelles assez graves. Mais finalement, rien de ça n'est arrivé. Et regardez ce qui est plus fort encore. Elle a crié à Dieu. Et Dieu a répondu, parce que cet homme-là n'avait pas d'affaires là. Jamais il ne passe dans sa rue avec ce gros camion-là. D'abord, c'est une rue sans issue. Et son camion est immense. Il y a eu une erreur d'aiguillage quelque part pour le fait qu'il s'est retrouvé là. En plus, il ne pouvait pas entendre à cause du bruit. Il est allé, il l'a aidé, et ils sont retournés ensuite le lendemain pour voir comment Madame allait. Et il était tout content de voir qu'elle allait bien. Mais on peut voir la puissance de Dieu. Dieu entend les cris de ceux qui le servent. C'est formidable. Et je pense que c'est important que je vous donne cet exemple-là pour qu'on ait cet encouragement-là. C'est des choses impossibles qui se sont passées, là. Cet homme-là n'avait pas d'affaires là, il ne pouvait pas entendre. Et il était justement là au bon moment. Il a fini par aller, il l'a trouvé derrière le terrain dans cette position-là. Dieu est un Dieu qui entend. Dieu est un Dieu qui se soucie de ses enfants. Où que vous soyez, vous pouvez parler à Dieu qui entend et qui se soucie de vous. Ça, c'est la sorte de Dieu que nous avons le privilège de servir. Je pense que c'est important que je vous donne cet exemple-là, et ça, j'ai demandé la permission, pour qu'on voit dans la vie de nos gens aujourd'hui comment Dieu intervient. Et moi, j'ai l'impression que Dieu va se manifester de plus en plus alors que nous approchons de la fin et qu'il y aura des situations de plus en plus difficiles. Maintenant, le troisième omni, Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Dieu a une connaissance parfaite et totale. Dieu a une connaissance parfaite et totale de tout ce qu'il y a dans sa création. Psaume 147. Psaume 147. Vous savez, avec les télescopes modernes, c'est fantastique parce que les hommes de science peuvent voir de plus en plus loin dans l'univers. Ils n'arrivent pas à voir le fond, mais ils voient de plus en plus loin dans l'univers. Ils découvrent d'autres planètes, ils découvrent d'autres galaxies, des mondes insoupçonnés comme création. C'est fantastique. Et on est impressionné devant ces choses-là. Dieu n'est pas impressionné. Dieu connaît tout ce qui existe. Regardez, psaume 147, versets 1 à 6. Dieu connaît déjà, par leur nom, toutes les planètes et toutes les galaxies. Pourquoi? C'est lui qui les a faites et c'est lui qui les a nommées. Regardez, psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Et aujourd'hui, on le célèbre en respectant son saint sabbat, en respectant la convocation sainte qu'on a de nous présenter devant lui pour être enseigné, en ne travaillant pas aujourd'hui, en nous reposant, en ayant davantage de temps pour prier, pour lire, pour rêver du monde à venir, et ainsi de suite. Alors, on honore notre Dieu, on le célèbre, car il est doux, il est bienséant de le louer. Et c'est vrai que ça fait tellement de bien. Et ça fait du bien de se retrouver ensemble en tant que membre de la famille. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Ici, on a une petite prévue, si vous voulez, ou une petite image de ce que Dieu va faire bientôt. Il va rebâtir Jérusalem. Il va ramener les exilés après la grande détresse. Et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Et regardez ce qu'il ajoute après. Et c'est sur ça que je vais attirer votre attention. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Elles ont déjà des noms. Il n'est pas surpris par les découvertes de Hubble ou des autres moyens techniques que les humains ont. Il est en charge de sa création. Verset 5, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Extraordinaire. Tellement bon. Tellement bon. Et après, on voit l'Éternel se soutient les malheureux. Il abaisse les méchants de la terre et ainsi de suite. Et Dieu soutient ses enfants. On le voit, on le sait. Allez à Éphésiens, maintenant, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Connaître le vrai Dieu, là, ça fait toute la différence dans notre façon de vivre. Je pense que vous le voyez déjà, là. C'est important. Connaître le vrai Dieu, ça fait toute la différence dans notre façon de vivre. Et vous savez une chose? Si ce n'est pas le cas, si le fait de connaître Dieu ne nous amène pas à changer, c'est que nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas vraiment. Ceux qui disent connaître Dieu, mais qui n'observent pas ses commandements, on a vu tantôt, Jean l'a dit, ce sont des menteurs. Ils pensent faire plaisir à Dieu, mais ils ne lui font pas plaisir et ils ne lui plaisent pas. Dans Éphésiens ici, Paul priait pour eux autres. Les Éphésiens, pourtant, c'était des membres d'Église et ils avaient la foi, comme vous avez la foi. Mais les Éphésiens devaient eux autres aussi aller plus loin et connaître Dieu davantage. Regardez ce que Paul dit, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 18. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, donc les Éphésiens avaient la foi, et votre amour pour tous les saints, donc il y avait une belle fraternité dans l'Église, je ne cesse de rendre grâce pour vous, et remercier Dieu qu'il en était ainsi. Je fais mention de vous dans mes prières, comme c'est notre responsabilité en tant que ministre de prier pour vous, non seulement en tant que groupe, mais en tant qu'individu, quand vous avez des besoins et tout ça. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voyez-vous qu'on doit augmenter dans la connaissance de Dieu par l'esprit de révélation? On doit augmenter dans la connaissance de Dieu. Dans le fond, il dit aux Éphésiens, « Bravo, vous avez la foi, vous êtes en marche. Mais maintenant, il faut que vous alliez plus loin, que vous connaissiez vraiment Dieu. » Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, à ceux qu'il sanctifie, c'est-à-dire à ceux qu'il met à part. Le même degré de connaissance dont il est question ici, Job l'a atteint à la suite de son épreuve. Vous pourrez aller voir dans Job 42, verset 5, quand Job, au bout de cette histoire, dit à Dieu, « Mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais la foi, je pratiquais la justice, mais je n'avais pas atteint l'autre niveau de connaissance de toi, Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire à cause de tes bénédictions, Dieu, malgré les difficultés que tu as permis que je traverse. » Il dit dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Mais maintenant, mon œil t'a vu. Wow! Et c'est pas juste l'œil physique, là. C'est que maintenant, je saisis davantage qui tu es. Maintenant, je commence à te connaître vraiment davantage. Et il parlait de ce radar spirituel que Dieu nous donne, son Saint-Esprit, pour qu'on comprenne les choses spirituelles. Par ce radar-là, on perçoit davantage qui est Dieu. On perçoit davantage quelle est sa perspective, quel est son plan, qu'est-ce qui nous attend. Et qu'est-ce que nous devons faire? Et on ne voit plus seulement la lettre de la loi, mais on voit la dimension spirituelle de la loi. l'esprit de la loi. C'est toute une autre dimension qui est tout à fait différente. Plus on connaît réellement Dieu, plus on veut se repentir, plus on s'applique à éliminer le mal de nos vies, à suivre la voie que Dieu nous montre. Rappelez-vous ce que Moïse a demandé à Dieu avec insistance. Allons-y, Exode 33. Exode 33, s'il vous plaît. Rappelez-vous ce que Moïse a demandé à Dieu en insistant. Et je vais arriver à autre chose avec ça. Exode 33, verset 13. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Regardez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc, je serai proche de toi, je te donnerai du repos. Regardez la réaction de Moïse. Et c'est une réaction qu'on doit développer, nous. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Si, Dieu, tu ne marches pas avec nous, fais que nous ne partions pas d'ici. Je vais vous le donner dans d'autres mots pour qu'on voit vraiment toute l'importance de ça. En d'autres mots, Moïse dit à Dieu, « Dieu, si tu n'es pas impliqué dans ce que nous allons faire, dans notre départ, dans notre voyage, nous ne voulons pas partir, tout simplement. » Donc, on veut que tu sois associé à ce que nous faisons. Et on doit développer cette approche. Nous, on doit dire à Dieu, en toute chose de ma vie, montre-moi à faire ta volonté et donne-moi de la faire de tout cœur. Comme David avait dit à Salomon, connais le Dieu de tes pères, pratique la vérité. Mais je dois dire à Dieu, mais si ce que je veux faire n'est pas conforme à ta volonté, je ne veux pas y participer. C'est ça que ça veut dire. Si ce que je m'apprête à faire n'est pas selon ta volonté, n'est pas selon le bien, je ne veux pas le faire. Aide-moi. Dans ça, et je termine là-dessus, c'est qu'on doit associer Dieu à toutes nos décisions importantes. On doit associer Dieu. Et il est prêt à le faire. Il est disposé. Il dit, demandez, vous recevrez. Associons Dieu à toutes nos décisions importantes. Quelles études nous allons choisir de faire? Quelle carrière nous envisageons de suivre? Parlons-en à Dieu, demandons-lui de s'impliquer avec nous là-dedans. Le choix de carrière. Qui fréquenter en vue de nous marier? Qui marier? Qui épouser? Si on a une vente de biens importants à faire, en parler à Dieu. Si on veut démarrer une entreprise, l'associer à ça. Si on veut déménager, lui en parler. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que tel achat important est une bonne décision ou pas? Il faut remettre ça entre ses mains et de demander son aide et utiliser les outils que nous avons. Jeûner, prier, demander son intervention, examiner les Écritures à ce sujet. Chercher conseil auprès de gens qui peuvent nous répondre dans la situation présente et après prendre une décision éclairée et là aller de l'avant. Plus nous sommes proches de Dieu dans toutes les situations, plus Dieu est avec nous. Ça, c'est tellement encourageant. Et on développe ainsi son caractère, sa mentalité, et on se prépare à devenir ses enfants, ses fils et ses filles à part entière. Ça fait et ça fera toute la différence dans notre façon de vivre, aujourd'hui et à jamais.